De 11 degrés. Notre invité, Nicolas Gagnon, comme à chaque lundi, à qui on aime bien jaser, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Salut, Nick!
Bon matin, ça va bien?
Oui, ça va très, très bien. Vous avez fait un sondage léger. Vous nous apprenez quelque chose que tout le monde savait. Les gens veulent une réduction de taxes, que ce soit au Canada ou au Québec, pour ce qui est du litre de l'essence.
Oui, effectivement. Bien, tout le monde le sait. Bien, je pense que Christine Fréchette, elle ne semblait pas le savoir. Puis c'est comme une manière de lui rappeler, justement, que effectivement, 76% des Québécois veulent une baisse des taxes sur l'essence. C'est le résultat du sondage léger qu'on a publié aujourd'hui. Et pour être très honnête, je veux dire, quand on retire là, en plus les personnes indécises, ça monte à 82%. Là, donc, c'est un chiffre assez. Je veux dire. Je m'attendais à quand même de quoi, genre la majorité des Québécois, je m'attendais pas à une majorité aussi forte. Donc, c'est une démonstration vraiment que les gens veulent qu'on baisse les taxes sur l'essence et qu'on imite ce que Mark Carney a fait au fédéral. Donc, maintenant, on peut officiellement dire là, que la balle est dans le camp de Mme Fréchette, surtout dans un contexte où est-ce que le prix de l'essence, malgré la baisse de la taxe d'assises fédérale, a quand même augmenté. Là, je pense que le prix moyen présentement, selon la Régie de l'énergie au Québec, c'est 1,91 $. Dans mon coin, il n'y a rien en bas de 2 $ dans les stations de service. Donc, ça démontre qu'effectivement, considérant le fait que pas loin de 25% du prix sur l'essence qu'on paye présentement, c'est des taxes provinciales, il y a de la marge de manœuvre pour le gouvernement provincial, justement, pour alléger le fardeau des automobilistes.
Écoute, quelqu'un que tu connais très bien à la Coalition Avenir Québec me mentionnait en fin de semaine que ce serait dans le cahier de Christine Fréchette pour ses 100 premiers jours là, de nous annoncer une baisse de taxes provinciales sur le litre de l'essence. À savoir si ce sera fait, je ne sais pas. Moi, c'est juste une source qui me l'a dit. Là. Donc, est-ce que c'est une rumeur? Normalement, quand cette personne-là me parle, c'est que c'est vrai la plupart du temps. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va faire. Mais en même temps, avec votre sondage, c'est un signal clair. Là. C'est un signal clair comme quoi les Québécois veulent avoir un break. Ce qui m'intéresse, Jeff, on s'en est parlé ce matin, ouais. C'est le 17% des gens qui veulent pas de baisse de taxes. Mm-hmm. Ces gens-là, sont-ils vraiment conscients de ce qu'ils disent?
Non, je pense pas. Parce que, tu sais, il y a souvent du monde qui veulent pas de baisse de taxes sur l'essence pour des raisons, mettons, ils vont souligner l'impact sur l'environnement. D'un, il y a aucun impact sur l'environnement. En plus, on parle d'une baisse de taxes temporaire. Je tiens à dire que les gens, ils vont pas arrêter de prendre leur véhicule parce que l'essence est passée de 1,50 $ à 2 $. Ils se sont juste appauvris en conséquence. Malheureusement, trop souvent, il n'y a pas d'alternative à l'utilisation de la voiture. Sinon, il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas affectés par le prix de l'essence parce qu'ils ont une voiture électrique ou ils prennent le transport en commun. On ne répétera jamais assez, le prix de l'essence a un impact sur littéralement toutes les composantes des chaînes d'approvisionnement dans l'économie, ce qui fait en sorte que vous allez payer plus cher dans l'épicerie à cause des coûts du transport notamment.
Parfait. Mettons qu'on prend un exemple. Oui. La personne a une voiture électrique, puis elle fait partie du 17% des gens qui ne veulent pas qu'on baisse le coût de l'essence par l'abolition d'une taxe, OK? C'est la peinture, mettons qu'elle érafle son véhicule électrique, elle l'érafle. La peinture est amenée au Canada comment?
Oui, par bateau, généralement.
Ou par la route. Puis c'est livré comment chez le garagiste?
Ben, par un camion.
Par un camion.
C'est pas un camion électrique.
Puis ces gens-là sont-ils à l'électricité? Donc le coût va paraître. Tout ce qui l'entoure, à l'épicerie, tu sais, les fruits, les légumes, c'est livré par du pétrole. Tout ce qu'elle utilise, tout ce qui l'entoure, qui est fait avec du plastique, son téléphone est fait avec du pétrole. Mmh. Tout va augmenter, là.
Oui, ben c'est un bon point que tu mentionnes parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, on l'oublie, mais à peu près 10 000 produits dans notre vie quotidienne qui sont le résultat de la pétrochimie. Sans oublier, bien sûr, tout ce qui est touché de près ou de loin dans les chaînes d'approvisionnement par le transport notamment. Fait que, tu sais, même si, par exemple, on arrive à vivre avec une voiture électrique, on est vegan, puis on fait vraiment des choix qui éliminent le plus que possible la présence de produits liés à la pétrochimie, vous allez quand même être affecté de près ou de loin par ça. Et ça a un impact aussi sur l'inflation. Puis, tu sais, il faut quand même rappeler que le contexte présentement qu'on connaît, c'est dû à ce qui se passe, bien sûr, au Moyen-Orient, puis c'est pas non plus à veille de se régler, là, de ce que j'ai pu comprendre dans les dernières nouvelles. Donc, puis malheureusement, on n'a aucun contrôle sur cette situation-là, puis ça va pas se régler d'ici tôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On se croise des bras ou le gouvernement, il peut littéralement alléger le fardeau des automobilistes? Bien sûr, l'argument qu'on me sort le plus souvent, c'est ben, on n'a pas les moyens, on a un déficit de 8,6 milliards. Ce à quoi je réponds, ben, on a les moyens de couper, par exemple. On ne manque pas de place dans la fonction publique ou couper. On ne manque pas de programmes de subventions aux entreprises qu'on peut couper. On ne manque pas vraiment de gaspillage gouvernemental à éliminer. pour être en mesure d'alléger le fardeau de l'ensemble des contribuables, mais il faut que Mme Fréchette agisse en ce sens. Il y a une logique comptable à appliquer. Et bien là, la porte est grande ouverte, puis elle aurait en plus, comme le démontre notre sondage d'aujourd'hui, vraiment l'appui de la population québécoise.
Ça pourrait représenter combien là, en dollars si jamais, je sais pas, tiens, j'ai une mini fourgonnette.
Ah, ben c'est une bonne question. Par exemple, là, on prend juste la taxe provinciale sur les carburants parce qu'il y a plusieurs taxes qu'on paye. Au total, c'est entre 40 et 45 cents par litre d'essence qu'on paye qui sont des taxes provinciales. Ça inclut la taxe sur taxe sur les carburants de 19,2 cents, la taxe carbone, la TVQ et la taxe sur le transport en commun dans le coin de Montréal de 3 cents. Et maintenant qu'on isole juste la taxe provinciale sur les carburants, ça représente environ 12 $ à chaque fois que vous faites le plein de votre véhicule. Donc, à toutes les 2 semaines, mettons qu'on prend juste la. T'sais, on va prendre une famille type, là, on va dire une fourgonnette puis une camionnette. Ben, la fourgonnette, là, ben, ou plutôt la minivan, à chaque 2 semaines, ça coûte 12 $ faire le plein. La camionnette, c'est environ 15 $ selon la capacité du réservoir. Fait qu'à la fin de l'année, là, c'est environ 700 $ qui sont payés uniquement pour cette taxe provinciale sur les carburants par cette famille type avec 2 véhicules. On peut voir à quel point ça a un impact. Bien sûr, imaginez maintenant l'effet. Peut-être pas multiplicateur, mais l'effet que ça peut avoir si on ajoute ça à l'autre congé de taxe qu'on a au fédéral de 10 cents de moins. Si on aurait, par exemple, une surenchère de la part de Mme Fréchette qui décide de couper de moitié la taxe provinciale sur les carburants pour, on va dire, les 6 prochains mois, ça sauverait là, quand même facilement 200 à 300 $ par famille, là. Donc, c'est des économies significatives. C'est l'équivalent d'une épicerie supplémentaire que les gens pourraient se payer en économisant sur l'essence.
On parle de Mark Carney versus Christine Fréchette. Mark Carney qui vient de réduire le taux de cotisation du régime de pension du Canada. Et pour ce qui est de Christine Fréchette, elle refuse de faire de même avec la Régie des rentes du Québec. C'est une belle stratégie de Mark Carney. Il me semble que moi, j'aurais fait le contraire. Peut-être augmenter un peu l'argent qu'on envoie au Canada pour notre régime de pension. Parce qu'avec le coût de la vie qui augmente année après année, quelqu'un qui a sa petite pension au Canada puis au Québec, là, il vit pas riche-riche.
Excuse-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le lien Zoom, mais ça a buggé au début de ta question. Fait que
En
je
fait,
m'excuse complètement là.
ce que je mentionne, Nick, c'est que Mark Carney vient de réduire le taux de cotisation du régime de pension du Canada, puis Fréchette refuse de faire de même avec le régime de retraite du Québec. Me semble qu'avoir été Carney, j'aurais fait le contraire. Je l'aurais augmenté un peu la cotisation pour ce qui est du régime de pension du Canada. Parce qu'à un moment donné, puis je ferais la même affaire au Québec, parce qu'à un moment donné, là, moi, quand je vais avoir ça à 65 ans, le coût de la vie va avoir explosé, là. Année après année, ça explose. Puis la petite pension du Québec, puis la petite pension du Canada, c'est pas suffisant pour subvenir à tes besoins. C'est juste ça.
Non, c'est un bon point, mais il n'en reste que on va jamais chialer sur le fait qu'un allègement fiscal d'une quelconque manière, surtout quand ça touche des cotisations obligatoires comme le RRQ ou le RPC, sauf que on s'entend qu'il y a une logique à ça. Il faut dire qu'à chaque année, le taux de cotisation est quand même rehaussé, justement pour compenser le coût de la vie qui augmente et faire en sorte que les cotisations augmentent de leur côté pour qu'éventuellement le pensionnaire puisse avoir quand même une pension qui a été ajustée comme telle. Mais tu as raison, tu peux pas uniquement vivre de ta pension du gouvernement une fois à la retraite, parce que sinon tu vis dans une certaine précarité. On va se le dire franchement, pas pour rien qu'on parle souvent de REER, de CELI, puis de d'autres produits d'épargne si vous n'avez pas une pension garantie. Mais il en
Mais
reste que dans la dernière mise à jour économique, c'est ce que tu as fait.
ça, Nick, là, je trouve ça intéressant parce qu'on dit, ah, il y a des CELI, il y a des REER, OK? Mais il y a des gens qui nous écoutent là, qui gagnent bien leur vie, gagnent 40, 45 000 par année. Avec 2 enfants, on va te dire que 40, 45 000 par année, là, tu vas pas chier loin avec ça vraiment. Des CELI, tu peux même pas y penser, puis des REER non plus, surtout si tu es le seul à payer, OK? Mais quelqu'un qui travaille au gouvernement, qui fait à peu près le même travail, prenons, je sais pas moi, secrétaire, ça se dit ça encore, Jeff, secrétaire? Adjointe
Ouais,
administrative.
adjointe
Fait que là,
administrative.
tu as une adjointe administrative qui a travaillé toute sa vie pour le privé, tu as une adjointe administrative qui a travaillé pour le gouvernement. L'adjointe administrative qui a travaillé pour le gouvernement va faire un 35, un 40, un 45 000 par année, même salaire à peu près qu'au privé, mais elle, sa pension va s'accumuler. Mais l'autre adjointe administrative qui est pour, je sais pas moi, tiens, je prends Canadian Tire parce qu'elle est en face de moi dans le Bourgneuf, là, elle, là, Elle a travaillé aussi fort que l'employé du gouvernement, mais elle n'est pas capable de se prendre de CELI, puis elle n'est pas capable de se prendre de REER. Puis son objectif, quand elle va avoir 65 ans, c'est de ne pas être pauvre, là, puis avoir de la misère à se loger.
Mais présentement, elle est pauvre.
Fait qu'il faut augmenter les l'argent qu'on envoie au fédéral pour notre pension. Sinon, on n'arrivera plus tantôt, Nick, là.
Je suis totalement d'accord. Puis moi, je pense que dans un sens, tu as 100% raison sur le fait que on s'entend que les gens qui sont dans le privé, par exemple, ils n'ont pas des pensions qui sont ajustées. Ils doivent cotiser beaucoup plus pour être en mesure d'avoir de quoi d'équivalent au public. Mais dans ce cas-ci, dans ce qui a été fait au niveau du régime de pension, au niveau des taux de cotisation, ça permet de donner la chance aux gens d'épargner par eux-mêmes, pour leur propre retraite. Parce que l'argent qui est pris dans leur poche directement, donc à la source via la RPC ou sinon pour la RRQ, parce que nous, au Québec, c'est la RRQ qu'on paye de notre côté, en baissant le taux de cotisation du RPC, ça permet aux gens justement d'épargner à la source puis d'utiliser cet argent-là pour eux-mêmes la mettre, par exemple, dans un véritable compte d'épargne qui va leur apporter peut-être un peu plus de rendement plutôt que de dépendre du régime de cotisation du gouvernement fédéral qui n'est pas tant généreux. Ça ramène quand même un très gros débat sur les questions des retraites maintenant, à savoir est-ce qu'il devrait avoir littéralement une cotisation à la source ou on devrait littéralement laisser cet argent-là entre les poches des gens et cotiser vous-même à votre propre retraite, investissez vous-même dans vos épargnes futures pour avoir une retraite selon vos capacités et non de dépendre du gouvernement pour y arriver. Maintenant que c'est dit, ce qui a été fait dans la dernière mise à jour économique du gouvernement fédéral, c'est qu'ils ont baissé le taux de cotisation, ce qui fait en sorte que présentement, le RPC, c'est 9,5% du salaire qui est cotisé versus au Québec, le RRQ, on cotise 10,6%. Et ça fait en sorte qu'il y a quand même un écart assez significatif qui s'agrandit au niveau de ces cotisations-là. Pour des pensions qui sont à peu près similaires, il faut le rappeler. Donc, c'est juste qu'au Québec, malheureusement, on sait que Mme Fréchette s'est refusée pour l'instant de s'engager à baisser le taux de cotisation du RRQ. Donc, on cotise à un montant plus élevé pour pas nécessairement avoir des meilleures retraites. Moi, je préfère quand même l'approche Carney dans ce cas-ci où est-ce qu'on laisse les gens sauver de l'argent à la source. Ça a l'air de rien, mais pour un salaire de 71 000 $ on fait le calcul rapide qui me base sur l'article de Michel Girard qui a été publié en fin de semaine. Il y a quand même une économie d'environ 142 $ là, pour le travailleur là, en fait, qui est économisé. Ça a l'air, c'est pas énorme, mais c'est 142 $ qui peut être investi ailleurs que dans un régime de pension qui sera pas vraiment généreux en bout de ligne. Puis je pense que ce 142 $-là épargné à chaque année dans un compte avec un épargne à intérêt élevé va ramener beaucoup plus que ce que ça rapporte avec le régime de pension du Canada. Maintenant, c'est dit, ça serait quand même bien que le gouvernement du Québec suive son côté en baissant le taux de cotisation du RRQ, mais ça ne semble pas être la tendance dans laquelle on veut s'engager pour l'instant.
Tu vois, j'ai un auditeur qui nous écrit, un ou une auditeur, je ne sais pas, là, mais la personne a 72 ans. Elle travaille encore à raison de 30 à 40 heures par semaine. Elle le fait pas nécessairement par choix, parce que si elle travaillait pas à l'âge de 72 ans, 30 à 40 heures par semaine, son revenu annuel serait 25 000 $ sous le seuil de la pauvreté.
25 000.
Pense-y, là. C'est autour de 40 000 le seuil de pauvreté, là.
Ça veut dire qu'elle gagnerait 15 000 $.
Ça lui donnerait 15 000 $. Ah, selon elle.
15 000 $ pour vivre suffisant. Pour une année. Ben non. T'es juste en loyer, t'es fait.
Tu as même une chambre.
Ben non, mais t'es fait ça là, 12 mois par année. Là.
Ce serait catastrophique. Mais 72 ans, il y en a de plus en plus, Nick, qui accepte de ne pas prendre de retraite puis qui continue de travailler autant que faire se peut jusqu'à temps que la maladie poigne.
D'une part, c'est malheureux quand on est forcé à le faire, quand on fait un travail qu'on n'aime pas, puis qu'en plus, on n'a pas nécessairement la santé physique ou mentale pour en plus, à cet âge-là, à dire « OK, je dois encore me lever à 6 heures le matin pour aller faire une job, puis parce que j'ai pas le choix. » On s'entend que c'est pas la même condition que quelqu'un qui choisit de travailler après l'âge de la retraite parce qu'il aime ce qu'il fait, il est passionné par ça. Je connais des gens qui sont des professeurs, des comptables, des avocats qu'eux autres continuent de travailler à 75 ans parce qu'ils sont passionnés par ça, mais c'est vraiment du cas par cas rendu là. Mais il n'en reste que c'est malheureusement pas une discussion, mais c'est comme une genre de révolution qui va malheureusement devoir s'opérer au Québec. C'est la perception qu'on a de la retraite, parce que ma génération, on s'entend, les gens en trentaine, en vingtaine présentement, Ils regardent l'état de l'économie, ils regardent l'état des finances publiques, puis ils se disent, nous, quand on va arriver à la retraite, il n'y aura plus rien en caisse. T'sais, ça sert à rien de
Ben,
penser à ça plus tard. On est mieux d'épargner nous-mêmes que d'avoir nos propres actifs, de sauver de l'argent, puis d'utiliser tous les autres outils d'épargne, plutôt que de dépendre, par exemple, du RRQ, arriver à la retraite, puis faire,
exact.
ben, finalement, on doit travailler quand même du 40 heures semaine, puis parce qu'on n'a pas les moyens de vivre.
Puis on en a jasé, toi et moi, la semaine passée dans Marceau Soir, tu sais, le gouvernement devrait initier justement le fait que travailler après 65 ans, c'est bon pour le physique, c'est bon pour le côté cognitif, puis donner des avantages à ces gens-là qui continuent de travailler parce que tu vas les éloigner de l'hôpital nécessairement. T'sais, s'ils travaillent, s'ils sont actifs, s'ils ont une vie sociale, puis ils font, je sais pas moi, 15 heures par semaine, 10 heures ou 20 heures, ce sera ça. Mais ils ont payé pendant presque 65 ans leur impôt, là. À partir de 65 ans, s'ils gagnent 15 piastres de l'heure, ben 16 piastres de l'heure, tu peux-tu leur laisser le 16 piastres de l'heure dans les poches? Ils ont payé leur juste part d'impôt. Puis les gens, ils sont pas plus fous que les autres. Oh, je peux aller me chercher un revenu supplémentaire, je ne serai pas coupé sur ma pension. Moi, y aller, là. Je vais y aller, ça va me faire plaisir. Là, ça va paraître, ça va arriver directement dans mes poches. Puis je vais me payer des petits plaisirs avec ça. Je vais gâter mes enfants. C'est pas des gens qui vont transformer ça en lingots d'or puis qui vont cacher ça dans le coffre-fort, dans le sous-sol. Ils vont dépenser ça là, dans la société.
Exactement. Là. Puis, pour reprendre un peu le fameux texte du professeur, là, je pense, dans l'actualité, qui disait qu'on devrait peut-être commencer à taxer les REER et les CELI.
Non, non.
Non, l'argent qui est épargné, que ce soit d'un point de vue de produit d'épargne ou que ce soit d'un point de vue de l'impôt après la retraite, ce n'est pas un manque à gagner pour l'État, c'est un plus pour le contribuable. Puis, tu as parfaitement raison. Je pense qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de comment dire, d'encourager, d'inciter les gens à rester actifs après la retraite, c'est pas de les forcer à le faire, c'est de dire que si vous le faites, ben vous ne serez pas pénalisé pour autant.
Vous allez avoir des
C'est normal que
avantages.
vous allez quand même payer de l'impôt à quelque part sur le revenu, mais comme ne serait-ce que par exemple sur les REER qui sont décaissés ou ce genre de choses-là, mais encore là, ça peut être imaginé parce que veux pas le REER, c'est quand même de l'impôt reporté. Donc, inévitablement, il y aurait quand même un impôt à payer dessus. Mais est-ce qu'on peut parler de baisser les impôts, que ce soit sur le décaissement des REER ou que ce soit sur les salaires après 65 ans? Je pense que c'est une discussion à avoir pour garder l'économie. Puis surtout, les gens actifs, comme tu l'as mentionné, ça a un impact non
Ben
négligeable sur
oui.
la santé des gens. Et dans le contexte aussi au Québec, il faut le rappeler, malheureusement, quand on a quand même une population à la fois déclinante et vieillissante, et ça va venir avec de plus en plus de coûts. Au niveau des services de santé dans les prochaines années. Donc, je pense que de garder la population active, ça permet d'un peu décroître les coûts qui vont arriver, mais il va falloir avoir plus de solutions sur la table, c'est sûr.
On se reparle la semaine prochaine, Nick.
Avec un grand plaisir, à très bientôt.
Merci, au revoir. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Tu vas-tu faire ça, toi, 65 ans? Je te promets que tu vas garder ton salaire. Fait que si tu gagnes, mettons que c'est à partir d'aujourd'hui,
ouais.
Tu gagnes 17 piastres de l'heure, je t'enlève pas une maudite scène de l'argent que tu fais, malgré le fait que tu as ta RRQ et tu as ta petite pension du fédéral
ouais, moi,
aussi.
C'est sûr qu'à 65 ans, je veux continuer à travailler. Je veux continuer dans le monde.
C'est ça. Mais ça devient avantageux.
Ben oui, ça devient avantageux. C'est clair. Tu sais, je veux dire, présentement, avec l'espérance de vie qui a augmenté, je pense qu'à 65 ans, je vais être encore dans des capacités physiques et cognitives pour pouvoir continuer à avoir ma petite jobine puis me divertir. Là, un bon petit 25 heures semaine. Là.
On va se le souhaiter. On fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau le matin. Marceau.